Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Vivante Église pour ce qui va être, en ce qui me concerne en tout cas, le numéro de la reprise après la longue parenthèse des vacances d'été. Alors que l'actualité politique revient en force en cette période de rentrée, j'ai choisi de consacrer cette émission à un sujet « Foi et action politique font-elles bon ménage ?» On en discute dans quelques instants avec mes invités. Deux invités aujourd'hui pour débattre de ce sujet délicat, surtout dans notre pays où le mot « laïcité » n'est pas toujours bien compris et suscite souvent des passions contradictoires. Nicole Yardeni et Jean-Baptiste de Scorail ont accepté d'en parler à l'antenne. La première est élue à la mairie de Toulouse, adjointe au maire délégué aux musiques et aux relations avec les acteurs culturels, également membre du bureau de Toulouse Métropole. Le second est aussi adjoint au maire de Toulouse, délégué entre autres à la vie quotidienne et au monde combattant, conseiller métropolitain et conseiller départemental de la Haute-Garonne. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Merci d'avoir accepté de vous exprimer sur cette question des rapports entre foi et action politique. Beaucoup d'élus ne souhaitant pas toujours l'évoquer dans les médias. Avant d'aller dans le vif du sujet, une interrogation un peu intime pour commencer. Quelle place tient la foi et éventuellement la pratique religieuse dans votre vie personnelle? Relève-t-elle d'une transmission et d'une tradition familiale? Je pose d'abord la question à Nicole Yardeni, qui, je le précise, est de confession juive et a été présidente du CRIF Midi-Pyrénées.
Alors, c'est vrai que parler de la foi au micro d'une radio chrétienne, pour un juif ou une juive, c'est délicat parce que être juif n'est pas simplement une confession, que ce soit des juifs pratiquants ou des juifs qui le soient moins. L'identité juive ne peut pas être juste la foi. En ce qui me concerne, c'est effectivement une transmission familiale, que ce soit l'histoire de mes parents, celle des parents de mon mari ou de leur pratique. C'est quelque chose qui se transmet à l'intérieur de la maison. Donc c'est quelque chose d'assez intime en fait et d'assez pudique. Et donc c'est un peu délicat de parler de la question de la foi. On dit souvent chez les juifs que la foi peut venir, mais après l'étude. Les juifs racontent toujours des histoires et des paraboles, on n'est pas les seuls. Et un rabbin il y a 2000 ans à qui quelqu'un posait la question « Je voudrais, rabbin, que tu m'expliques la Torah, donc les 5 livres de Moïse, le temps que je me tienne sur un pied. » Et Hillel lui répond « Écoute, sois avec autrui comme tu voudrais qu'il soit avec toi. Tout le reste est commentaire. Maintenant, va et étudie. » Et je crois que nous pouvons tous partager cette règle d'or du rabbin Hillel qui a vécu il y a 2000 ans à Jérusalem. Donc il n'y a pas de difficulté à parler de ce que cela signifie. Mais la question mystique est toujours plutôt en arrière-plan.
Est-ce que vous pratiquez? Est-ce que vous avez un degré de pratique religieuse assez important?
Alors oui, je fais attention à ce que je mange. Hein, parce que le judaïsme est une orthopraxie, hein, il faut le savoir. Et donc, il y a des règles, la règle de la kashrout en particulier, hein, sur la question de ce qu'on a le droit de manger, de ce qu'on n'a pas le droit de manger. Mais on ne doit jamais l'imposer ou en faire quelque chose d'ostentatoire à quelque moment que ce soit. Donc, quand je suis avec l'équipe municipale, par exemple, et qu'il y a un buffet que nous partageons, je vais regarder ce que je peux manger. En général, si on mange végétarien dans ces conditions-là, tout va bien. Je ne peux pas respecter le samedi, qui est un jour normalement où on ne fait rien, parce que ça limiterait beaucoup nos engagements sur le terrain auprès des administrés. Mais je respecte nos fêtes religieuses, qui sont assez nombreuses et assez proches du calendrier chrétien.
On va passer à Jean-Baptiste de Scorail. Vous êtes catholique pratiquant, vous ne l'avez jamais caché.
Non, je ne le cache pas.
Votre foi est très présente dans votre vie personnelle et la façon dont vous la menez, ça, je crois pouvoir le dire, depuis l'enfance.
Oui, depuis l'enfance et puis même depuis des siècles, puisque j'ai la chance d'être issu d'une famille qui est en France depuis les années 700. On fait partie, et je ne veux pas m'en vanter, mais on fait partie des plus anciennes familles de France qui ont toujours été dans la culture catholique et dans le service de l'autre. Et ça, c'est très important pour nous. Et ces cultures-là se sont transmises de famille en famille, de père en mère aussi. Et c'est un peu comme Nicole, c'est que mes parents, d'un côté comme de l'autre, étaient de familles pratiquantes et nous ont transmis ça. Et notre rôle, c'est de le transmettre à nos enfants et aussi de leur dire, attention, quand vous allez choisir la personne avec qui vous allez vivre, ce sera plus simple si, effectivement, elle a une vision, je dirais, chrétienne de la société que si, effectivement, on allait chercher ailleurs, parce que les convictions sont importantes et qu'il faut aussi être assez cohérent. Tout souvent, je leur dis, le mariage est quelque chose de difficile, même pour des catholiques. Donc, si en plus, on se met des difficultés supplémentaires, ça devient très compliqué. Mais ce n'est pas pour ça qu'on n'est pas ouvert. Et on a été toujours, justement, élevé dans cette ouverture sur l'autre.
Et vous, votre pratique est hebdomadaire, vous allez à la messe tous les dimanches?
Oui, je vais à la messe tous les dimanches. J'essaye de faire, de consacrer, je dirais, mes journées, entre guillemets, au Seigneur quand je le peux. Alors, je suis aussi pêcheur, hein, donc c'est toujours compliqué. Et quelquefois, on oublie de mettre le Seigneur en avant. Il passe après, alors qu'il doit être le premier servi, entre guillemets. Mais c'est vrai que j'essaye le matin de consacrer ma journée, entre guillemets, au Seigneur en disant, et le soir, de dire merci. Mais ce n'est pas tout le temps le cas, parce qu'il y a des moments où on est pris dans notre vie, où on oublie. Et c'est pareil pour la pratique religieuse. Je dirais les fêtes, oui, je les pratique toutes. Mais c'est vrai que quand on a le carême, etc., quelquefois, c'est compliqué de pouvoir pratiquer le carême dans notre vie professionnelle. Donc, je suis aussi, comme Nicole, il y a des choses que, malheureusement, je suis obligé un peu de mettre de côté de temps en temps, même si j'en parle et je sais que, voilà.
Quand vous vous êtes engagé en politique l'un et l'autre, est-ce que vous avez été transparent sur votre foi et vos convictions religieuses auprès du parti ou de la liste que vous aviez rejoint, ou est-ce que vous êtes resté plutôt discret sur la question en considérant que cela relevait de votre vie privée et que vous pouviez le garder pour vous, Nicole Iardini?
Dans mon cas, ma situation était connue
depuis longtemps du
maire de Toulouse, donc... Il n'y a pas eu de questions à se poser. Peut-être que lui-même ne connaissait pas mon degré de pratique, ça c'est vrai. Mais il m'est arrivé d'arriver à une réunion en retard parce que j'étais à la synagogue ou des choses comme ça. Donc il en a pris conscience par la suite, mais ça n'a jamais posé de problème. Il y a une grande ouverture d'esprit, vraiment, dans notre équipe.
Alors vous, Jean-Baptiste de Square, votre engagement politique est ancien, oui, il date de votre jeunesse.
Oui, mais ça a toujours été... je n'ai jamais séparé, si vous voulez, mon engagement politique de ma vie spirituelle, parce que je pense que ça va ensemble, dans des domaines particuliers. Mais ce que j'ai au fond de moi-même, c'est que j'ai toujours essayé de mettre l'homme au centre du dispositif. Et alors, c'est un peu ce que je dis à mes collègues communistes. Je dis, vous aussi, vous mettez l'homme au centre du dispositif, mais vous oubliez le début et la fin. Voilà. Et donc, c'est important pour moi, si vous voulez, de vivre en cohérence de la meilleure façon possible. Alors, quelquefois, on ne l'est pas toujours. Hein, mais c'est important et je n'ai jamais caché cela à quiconque. Ils le savent et je n'ai pas le caché. D'autant plus que, si vous voulez, je suis la génération Jean-Paul II. Quand Jean-Paul II a été élu pape, j'avais 15 ans. Et pour moi, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et c'est mon étoile du berger, entre guillemets, encore maintenant, c'est Jean-Paul II.
Ça reste un guide.
Oui, c'est un guide, c'est ça.
Et sa pensée,
c'est super important. La doctrine sociale de l'Église, tout ce qu'il a mis en place, pour moi, c'est vital. Et je pense que c'est lui qui a réouvert l'Église sur les autres, on a vu ses actes forts qu'il a fait en Israël, autour même des problèmes de la Shoah, quand il y avait eu des problématiques en Pologne, à Auschwitz, etc. Je pense au Carmel, par exemple.
Tout à fait.
Et chaque fois que j'ai besoin de me recentrer, je me recentre sur lui.
On en vient à la question principale de cette émission. Comment conciliez-vous votre foi, vos convictions religieuses et votre action en tant qu'élu, vos engagements politiques? Autrement dit, quel rapport entretiennent les unes et les autres? Nicole Iardini.
Alors, on va reciter le rabbin Hillel qui disait, il y a donc plus de 2000 ans, il a dit « Si je ne suis que pour moi, qui suis-je ?» Et donc, c'est cette idée que les limites de sa propre vie doivent être transcendées. Bien sûr, au travers de ce que l'on transmet et de ce que l'on donne de soi à sa famille, à ses enfants. Dans mon cas, j'ai déjà un petit-fils. Donc, il y a vraiment ça, mais ça dépasse largement cela. Et c'est exactement ça. On est au service des gens. Et en essayant de trouver une position modérée là-dessus. Et parce qu'il a dit, si je ne suis pas pour moi, qui suis-je? Mais si je ne suis pas pour moi, qui le sera? C'est-à-dire que tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Et oui, c'est comme. C'est pas plus, c'est pas moins, comme toi-même.
C'est comme toi-même. C'est fondamental. Et en fait, cet engagement, il n'efface pas ce que l'on est. On est authentique, on est soi-même et on est ouvert à la différence de l'autre. Et qu'est-ce qu'on peut trouver comme chemin pour que les choses soient pacifiées, en fait, et soient améliorées. Voilà, et donc, pour moi, il n'y a pas de... C'est comme pour Jean-Baptiste, il n'y a pas d'écart, il n'y a pas de distance entre ces deux aspects, en aucun cas. Et j'ai la chance, et nous avons la chance, d'être dans une équipe qui laisse cette liberté-là et qui la valorise.
Jean-Baptiste Oscorail.
Alors, Nicole a raison de parler du service de l'autre. Et c'est vrai que moi, j'ai été élevé par des parents qui m'ont toujours appris à être à l'écoute de l'autre et au service de l'autre. Donc pour moi, dans ma vie tous les jours, ce qui est important, c'est d'être au service de l'autre, de mettre l'homme au son dispositif et de tout faire chaque fois, et vous en aviez parlé tout à l'heure dans votre introduction, c'est d'être capable de se dire, est-ce que c'est bien pour mon concitoyen, l'action que je mène, etc. Mmh. Et moi, je le remets toujours au son dispositif parce que c'est vital. Je pense que Nicole est comme moi, on a d'autres choses dans notre vie que la politique, on travaille. Donc ça nous donne, ça nous rend notre liberté. Oui. On travaille. Je dirais que moi, je n'ai pas besoin de la politique pour vivre. Et je pense que si vous voulez, j'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai d'autres choses. Donc à partir de là, je suis libre. Et d'autant plus libre, ce qui m'aide à prendre des décisions qui soient le plus proche possible du bien commun. Et j'essaye. Alors quelquefois, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Mais globalement, je pense que, on le voit même dans les résultats des élections, si je suis réélu au conseil départemental avec ma binôme, etc., c'est que je pense qu'on a quand même une vision qui est assez humaine des choses et au plus proche de nos concitoyens. Et c'est ça qui est important. Et même de nos collaborateurs aussi à la mairie. C'est super important, si vous voulez. Une petite anecdote, c'est que le jour au lendemain, quelques jours après la première élection 2014, je passe dans la rue, je vois un employé de la mairie qui est en train de balayer le trottoir. Et je vais le saluer. Il me dit, mais vous me dites bonjour. Je dis, mais pourquoi je ne vous dirai pas bonjour? Ah, mais parce que normalement, les élus ne disent pas bonjour. Je dis, mais qu'est-ce que c'est cette histoire?
C'est pas normal, justement.
Voilà. Et donc, c'est là où je me suis rendu compte qu'il était important que dans notre vie de tous les jours, dans notre vie politique, mais aussi professionnelle, on soit à l'écoute des autres. Et j'ai la chance d'avoir un travail de manager, et je pense que c'est assez reconnu par mes collaborateurs, c'est que j'ai une vision juste et humaine, et j'essaye de le faire dans la vie de tous les jours, auprès de mes concitoyens. Et il faut être capable, et Nicole le sait, de leur dire non aussi, comme on dit non à nos enfants. C'est-à-dire, monsieur, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas y arriver, ce n'est pas la peine. D'aller faire croire aux gens que c'est le pire de tout. Il faut leur dire, voilà, on va essayer ensemble à arriver à ce boulot. Si on peut, ben très bien. Si on ne peut pas, et les gens comprennent bien ça.
Parce que, comme politique, on est à la fois au service des autres, mais on est au service de l'intérêt général. Et donc, on doit toujours arriver à réconcilier ce que l'on peut faire pour un autre, mais ce qu'on doit faire pour l'ensemble, pour les autres.
Et l'intérêt général, ce n'est pas la somme des intérêts particuliers.
Exactement, ça ne l'est pas. C'est exactement le point délicat qu'il est compliqué parfois d'expliquer.
Est-ce qu'il est arrivé qu'on vous reproche que vos convictions ou votre appartenance religieuse soient trop connues, trop publiques? Vous avez été présidente du CRIF, donc Nicole Gardini, et vous, Jean-Baptiste Scorail, je ne révèle pas un secret, vous avez été milité pour la Manif pour tous. Est-ce qu'il est arrivé qu'on vous le reproche, que ces engagements-là soient trop connus et que ce reproche vienne notamment d'élus? Nicole Gardini.
Dans mon cas, ce n'est pas la question religieuse, en fait, hein, qui semble...
C'est pour ça que je parle d'appartenance.
Voilà. Pas la question religieuse, comme je le disais tout à l'heure, et c'est tout le problème, c'est que on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt, mais si on prend, par exemple, la gauche radicale, ce qui les gêne, ce n'est pas ma confession. Et justement, ils préféreraient d'ailleurs nous enfermer que dans la question religieuse. Et aujourd'hui, on évoque des personnes de confession juive. Les juifs sont plus que ça, donc ce n'est pas ça qui les gêne. Aujourd'hui, et nous le savons bien, c'est un autre... C'est compliqué d'expliquer ça parce que nous sommes ici pour parler de notre appartenance religieuse. Mais dans ce cas-là, de façon très précise, ce qui est, on va dire, instrumentalisé et ce qui est parfois extrêmement violent, c'est le fait de me dire, aujourd'hui, en tout cas depuis ces derniers mois, mais sous une autre forme avant, voilà, vous êtes une génocidaire, quoi, grosso modo. Ce qui est une inversion accusatoire absolument abyssale. Et il faut arriver à prendre de la distance par rapport à ça. Et justement, à dire, vous en faites un instrument politique. La question juive a toujours été un instrument politique. Je ne souhaite pas polémiquer là-dessus, mais s'il le faut, je le ferai. Et je le fais. Donc, ce n'est pas ma foi qui m'est reprochée. En ça, c'est différent de Jean-Baptiste.
Oui, bien sûr que la foi nous est reprochée, mais elle est reprochée par une petite partie de notre opposition. Je veux dire, il y a des gens qui sont quand même conscients des choses, et c'est un moyen politique d'essayer de nous abattre. Moi, je le sais, donc je suis préparé. Oui. Donc voilà, maintenant ça fait mal. C'est clair. Oui. Et il faut que les gens qui s'engagent, en particulier les gens qui ont des convictions religieuses, qui sont fermes, qui s'engagent en politique, il faut vraiment qu'ils en prennent conscience parce que c'est dur. Je prends des exemples. Moi, j'ai toujours, et dans ma religion, on ne peut m'opposer et on ne peut pas se dire que dans la religion catholique, on ne doit pas accepter l'autre. Et si vous voulez, effectivement, j'ai pris un engagement que j'ai eu et que je ne regrette pas, effectivement, qui a été très polémique, pour certains, contre le mariage pour tous, parce que, dans ma conviction personnelle, j'estime que, effectivement, le mariage était avec un homme et une femme. Moi, là-dessus, je n'ai pas de problème. La loi est passée, on la respecte, etc. Maintenant, moi, là où j'ai un problème, c'est quand on me traite d'homophobe. Je ne peux pas accepter, moi, d'être traité d'homophobe. C'est insupportable pour moi. Je n'ai pas été élevé comme ça. J'ai été élevé dans le respect de l'autre. Et chaque fois qu'effectivement, on m'a traité d'homophobe, j'ai fait des actions que j'ai gagnées. Parce que, sur le fond, ce n'est pas du tout la raison. Et on nous enferme, effectivement, là-dedans. Et j'en suis désolé quelquefois pour l'équipe municipale, pour le maire. Mais on nous enferme dedans parce que c'est un moyen facile de pouvoir nous abattre. Mm-hmm. Mais bon, je prends du recul sur les choses. Mais il m'est arrivé aussi de me retrouver, cet exemple, à l'aéroport de Nantes, à plat, parce que j'en pouvais plus d'avoir des attaques qui étaient complètement très basses. Et j'ai appelé un de mes copains prêtres qui m'a remonté le moral. Et je me suis dit, non, si j'arrête tout, ça fera plaisir aux autres. Et puis, donc, il est important de continuer de se dire, et grâce à sa foi, on s'appuie là-dessus et de revenir sur les fondamentaux en se disant, mais non, moi, j'essaye, et c'est ce que je reproche à certains partis politiques, c'est que nous devons, et moi, en tant que chrétien ou catholique, je dois être capable d'accueillir l'autre. Alors effectivement, il y a des sujets qu'il faut prendre en main. Je pense par exemple à l'immigration, etc. Mais la solution d'aller donner un coup de pied, je vais être un peu direct, un coup de pied au cul aux gens pour les faire repasser la Méditerranée, c'est pas la solution. Donc il faut essayer de trouver une solution qui soit humaine. Et tous ces problèmes-là sont des problèmes importants. Mais il faut pas tomber dans la facilité de certains.
Je voulais juste rebondir sur ce que disait. Bien sûr que c'est dur quand on est ainsi visé et ciblé. Et dans mon cas, ça a pu même aller à différentes façons jusqu'à l'aspect physique.
Oui.
Mais, et c'est en ça que je rejoins Jean-Baptiste, quelque chose au fond de soi fait que, oui, malgré la difficulté, peut-être à cause de la difficulté, on trouve les ressources pour avancer, et c'est en le partageant avec d'autres, et il nous arrive de le partager tous les deux d'ailleurs.
Pour prolonger un peu la question précédente, est-ce qu'il vous arrive d'avoir le sentiment qu'on vous réduit, qu'on vous enferme, je reprends votre terme, Jean-Baptiste de Scorail, qu'on vous réduit à votre confession, qu'on vous enferme dedans, qu'on voit en vous d'abord votre supposée appartenance communautaire ou religieuse plutôt que votre engagement politique et votre action en tant qu'élu?
Oui, tout à fait, ça rejoint tout à fait la question précédente. Oui, après c'est à nous à être capables, dans les différentes délégations qui sont les nôtres, de faire la démonstration que nous sommes bien plus que cela et que cette réduction n'a aucun sens, et qu'en réalité, la question de l'assignation identitaire est au cœur de difficultés de notre société.
Actuellement, oui, depuis des années.
Oui, absolument. Et on est passé d'une idée tout à fait honorable d'inclusivité à une distorsion, une déformation de cela, et une forme d'assignation identitaire. Je ne vois pas d'obstacle au fait de dire ce que l'on est et qui on est, et il faut le savoir, je pense que c'est une chose très importante dans la vie, et de construire ce que l'on est. Ça ne se révèle pas, on le construit au quotidien, et on le construit d'ailleurs avec les autres, dans le dialogue qu'on peut avoir avec des gens qui sont différents, et je trouve que mes échanges avec certains tout au long de ma vie ont été une richesse par rapport à ce que je suis et comme appartenance religieuse liée à un peuple assez ancien, hein, puisqu'il date de l'Antiquité. Et donc, je ne vois pas où est la difficulté. Et nous réduire, par contre, à ça, c'est un appauvrissement du débat. On est plus que ça. Oui. On est ça et au-delà de ça.
Mais c'est bien de dire d'où l'on parle, pour reprendre une expression marxiste, mais en sachant qu'on appartient tous à une seule communauté, c'est la communauté nationale.
Absolument.
Jean-Baptiste de Scorail.
Alors, effectivement, je suis d'accord avec Nicole, et on essaye de nous enfermer. Moi, le premier, chaque fois, si vous voulez, on me rabâche toujours les mêmes choses, mais ce qui m'importe, moi, c'est les concitoyens. Et je vois que, par l'ensemble de mes délégations, les gens regardent aussi le travail que j'ai fait, et me soutiennent dans le travail que je fais. Donc, si vous voulez, ne m'enferme pas dans cette politique politicienne que font une minorité. Et c'est facile, hein, si vous voulez, même au conseil départemental, quand j'étais attaqué sur diverses choses, le président du conseil départemental, souvent, l'ancien et le nouveau aussi, venait me voir en disant « je sais que tu n'es pas comme ça », etc. Donc, il y a un rôle politicien de certains. Moi, ça m'est égal parce que derrière, le travail que je fais dans les diverses délégations montre que je suis à l'opposé de ce que l'on veut essayer de me faire endosser.
Oui, je pense que des années en politique, en tant qu'élu, vous ont tanné le cuir, comme on dit.
C'est un peu ça, mais c'est surtout que ça ne correspond pas du tout à ce que je suis. Et ce qui est bien, c'est que j'ai souvent des collègues élus qui ne me connaissaient pas, qui viennent me voir en disant « Ah ben, on a appris à te connaître, mais tu n'étais pas du tout comme on nous avait dit. » Mais oui, le problème, il est là. Mais c'est...
La caricature.
C'est ça.
Nous sommes à peu près à mi-émission et après ces premiers échanges, je propose que nous fassions une petite pause en musique, comme d'habitude dans cette émission, avant de poursuivre notre discussion. Et nous allons la faire en écoutant Jacques Dutronc et sa chanson « L'opportuniste ».
Je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent, qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a qui contestent, qui revendiquent, qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je crie vive les institutions, je crie vive les manifestations, je crie vive la collaboration. Non, jamais je ne conteste, ni revendique, ni ne proteste. Je ne sais faire qu'un seul geste, celui de retourner ma veste, de retourner ma veste.
Église, Éric Dupri.
Nous revoici à l'antenne après avoir écouté L'opportuniste chanté par Jacques Dutronc en 1969. Si j'ai choisi cette chanson, ce n'est pas par provocation pour faire ricaner à bon compte tous ceux qui pensent que les politiques n'agissent qu'en fonction de leurs propres intérêts et qu'ils changent de conviction comme de chemise. Il n'empêche, vous savez comme moi, que les élus ont perdu beaucoup de crédit auprès de nos concitoyens, que leurs paroles, voire leur probité, sont souvent mises en doute, ça depuis quelques années, on le voit aussi dans les votes. Hein. Est-ce que, justement, avoir une foi solide, ancrée, avoir des convictions religieuses sincères, ce ne serait pas un bon antidote aux tentations de l'opportunisme en politique? Est-ce que ce ne serait pas le moyen de rester toujours cohérent dans ses engagements personnels, fût-ce au prix parfois d'incompréhension ou même de fâcherie avec son propre camp? Nicole Iardini.
Alors, mon expérience en politique est courte. J'ai été élue en 2020 au sens électoral du terme. Et en plus, c'est intervenu tard dans ma vie, hein, puisque j'avais déjà dépassé les 60 ans. On change peu à cet âge-là. Et mes ambitions politiques, j'en suis protégée de par à la fois cet engagement tardif, n'appartenant pas à un parti politique et la ville de Toulouse, par tradition, a la moitié de ses élus qui sont société civile. Donc, je ne me sens pas vraiment concernée par ça. L'idée, c'est on fait ce qu'on a à faire pour Toulouse et ses habitants. Dans mon cas, sur les questions culturelles, sur les questions de formation, de musiciens. Enfin, voilà, c'est quelque chose de mon point de vue, en tout cas, mais c'est peut-être plus simple parce que justement, c'est arrivé à un moment de ma vie où. Ça n'est pas ma vie, en fait, au sens identitaire du terme. Mon identité était constituée avant de rejoindre cette forme d'engagement.
Et vous n'êtes pas entré en politique pour faire carrière.
Voilà, ça résume assez. Donc, je n'ai pas à me poser ces questions-là d'opportunisme. Je suis vraiment au plus près de ce que je suis, là où je suis. Et ça, c'est reposant.
Mais c'est peut-être pour ça aussi que vous n'avez jamais eu ambition de faire carrière en politique.
Je ne peux pas le dire.
Vous étiez prémuni d'avance. Alors, Jean-Baptiste Lecoraille, vous êtes en politique depuis longtemps.
Un peu plus longtemps, mais pour moi, c'est extrêmement important de lier ma vie de catholique pratiquant et ma vie politique. C'est-à-dire que j'essaye, alors je ne dis pas que j'y arriverai tout le temps, mais d'être en phase entre ce que je crois et ce que je pense être bon pour l'intérêt général. Ça veut dire que même si on a tous un peu d'ambition, ça fait partie de... Il est clair que, étant attaché à ma foi, j'essaye et j'espère ne jamais aller, je dirais, à l'opposition de ce que je crois, de ce que je pense. Alors c'est compliqué dans des sujets, on va le voir aussi dans les mois à venir, en particulier sur la loi, sur la fin de vie, etc. C'est des choses qui sont très compliquées. Mais moi, j'essaye d'être le plus près possible de mon engagement religieux à titre personnel, parce que il est clair que je ne veux pas d'une opposition de ma morale avec l'opposition des convictions politiques pour un poste. Et là où je rejoins Nicole, c'est que bon, j'ai commencé un peu plus tôt qu'elle en tant qu'élu, j'avais un peu moins de 50 ans, mais ma vie, elle n'est pas là. Ma vie, elle est au service des gens, oui, ça c'est clair, mais ma vie, elle est avec ma famille, avec mes enfants. J'ai autre chose dans la vie, avec la religion, mes engagements associatifs. J'ai fait beaucoup d'années comme brancardier à Lourdes, enfin, vous le savez. Et ma vie, elle est là. Après, effectivement, j'avais envie de travailler pour les Toulousains, d'être à leur service. J'essaye de le faire le mieux possible. Mais la difficulté qu'on a, vous savez, elle n'est pas souvent aussi du côté de l'opposition, elle est souvent aussi aux côtés de notre propre... amis catholiques.
C'est
et c'est très compliqué.
Poser, oui.
C'est très compliqué parce que souvent, ils sont encore plus intransigeants que les autres. Ils pensent que c'est facile à partir de... Non, moi, je préfère être dedans et essayer d'agir au mieux pour nos concitoyens dans la meilleure des façons des choses que d'être en train de crier à l'extérieur et de ne rien faire. Et ça, j'ai souvent dit à mes concitoyens catholiques qui me reprochaient ou qui reprochaient certaines choses, de leur dire, mais quand on est élu aussi, et en tant que catholique, on doit être à l'écoute des autres. Et donc, il y a des choses, effectivement, sur lesquelles j'ai un peu des difficultés à comprendre, mais on n'est pas tout seul. Les catholiques, c'est 2%. Donc, il y a un moment aussi, il faut avoir une vision qui soit pour l'ensemble des Toulousains. Et je pense qu'on essaye, dans notre équipe, d'avoir cette vision pour l'ensemble des Toulousains. Effectivement, il y a toujours des choses sur lesquelles on n'est pas toujours d'accord, mais l'intérêt, il est quoi? C'est l'intérêt général qui prime, et c'est ce que disait tout à l'heure Nicole. Donc, il faut aussi que le monde idéal n'existe pas, il faut aussi que mes concitoyens catholiques pratiquants qui me connaissent bien soient capables de l'entendre. Mais ce n'est pas toujours facile.
Alors, si je peux rebondir, en fait...
Oui, oui.
Pour résumer pourquoi je me suis engagée, alors je suis désolée parce que ça va être un peu sentimental, c'est une façon de dire merci. Il y a une expression en hébreu qui dit « karotatov », c'est la question de la gratitude est fondamentale. Et je ne vais pas révéler un grand secret, mais mes parents, mon père est né en Allemagne, ma mère est née à Metz, de parents venus de Pologne, et c'est l'endroit qui les a protégés. Que ce soit ma mère dans un couvent grâce à Monseigneur Saliège, ou mon père grâce à des mouvements scouts chrétiens. Et c'est une façon de dire merci.
Mais merci d'avoir rappelé ce fait familial. Et évidemment, on sent votre émotion à chaque fois que vous en parlez. Et on la comprend. Alors, quand on parle de foi, de religion, de conviction religieuse dans l'espace ou la vie publique, en politique, le mot laïcité vient à un moment ou à un autre dans la conversation. Quelle est votre définition, votre conception personnelle de la laïcité ? Jean-Baptiste Lecoraille.
Moi, je suis très attaché à la séparation de l'Église et de l'État. La loi de 1905 est une loi extraordinaire qui permet de donner la liberté aux religions. Alors, je le dis d'autant plus que mon arrière-grand-père avait été mis en prison parce qu'il avait refusé l'inventaire. Il était maire de son village, il avait refusé l'inventaire comme le faisaient beaucoup de gens parce qu'il pensait que. Et je pense qu'à leur époque, j'aurais peut-être fait pareil. Et donc, les gendarmes sont venus, ils l'ont mis en prison. Mais avec le recul maintenant... qu'est-ce qu'on aurait fait s'il n'y avait pas eu cette loi de 1905? Et je crois que cette loi de 1905 est là justement pour protéger nos religions. Et donc, l'idée, c'est de ne pas mettre la laïcité contre les religions, mais moi, je me sens profondément laïque, mais j'ai aussi une croyance. Et si vous voulez, souvent, les extrémistes de la laïcité sont plutôt des bouffeurs de curés, je dirais, et on le voit bien dans certaines associations qui sont toujours en train de militer pour le calvaire qui n'a pas à être là, que le ceci, la place Jean-Paul II, le machin, etc. Et je crois que ce ne sont pas des vrais laïcs. Le vrai laïc, il est quelqu'un qui est capable de ne pas opposer la politique et la religion. C'est des choses qui ne sont pas dans la même famille, mais qui ne sont pas en opposition. On peut être catholique, on peut être juif, on peut être musulman, et on peut être laïque. Et grâce à ça, enfin moi c'est le sentiment que j'ai, au moins la religion catholique est d'une certaine façon protégée, pas toujours justement, mais protégée par cette loi de 1905. Et je pense qu'on ne l'aurait pas eu en 1905, il aurait fallu la faire après.
Nicolas Ardenny.
Je pense que Jean-Baptiste a à peu près tout dit et je partage chaque mot qu'il a prononcé. Et je trouve que c'est d'autant plus intéressant que ce soit justement un catholique qui le dise parce qu'elle s'est faite quand même en opposition au catholicisme et a permis au départ aux autres confessions, juives, protestantes et évidemment musulmanes, même si à l'époque ils étaient peu nombreux sur notre territoire national, de trouver une place. Et donc c'est l'Église qui a été obligée, je vais faire une comparaison peut-être un peu osée, au début de la Genèse, il est dit qu'il s'est produit ce qu'on appelle le Tzimtzum, c'est-à-dire l'Éternel s'est retiré pour laisser la place finalement au développement de l'être humain. Et ça a été dur probablement pour l'Église de laisser de la place. Elle l'a fait et elle l'a fait aussi en étant fidèle à elle-même parce que en disant « rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », il y avait l'effarement de ça, c'est-à-dire de cette séparation entre le politique et le religieux qui me semble être d'une grande sagesse.
Alors je vais revenir là-dessus, et je pense que Nicolas a raison. Ce qu'on s'aperçoit, et je pensais tout à l'heure à l'association, c'est les libres penseurs, je crois, ou c'est ça, quelque chose comme
la
ça.
La libre pensée.
Et c'est plutôt un combat, pour moi, anti-religion catholique qu'autre chose. Et donc c'en est presque même ridicule, si vous voulez. Mais moi j'ai beaucoup de peine pour eux, plutôt que pour nous, parce qu'ils se mettent dans des situations où ils sont complètement en opposition avec l'ensemble des concitoyens qui estiment que la religion chrétienne est quand même la religion d'origine française et que même si les gens ne pratiquent plus, ils sont très attachés à ces valeurs-là. Et c'est important aussi de ne pas lutter contre cette religion catholique ou chrétienne qui ont essayé effectivement de construire notre pays depuis des siècles par principe parce qu'on est anticuré ou qu'on a mal vécu un passage dans une école privée ou dans un pensionnat.
Vous êtes d'accord, Nicolas Ardenny, sur ce point?
Alors, je ne connais pas aussi bien la question de la libre pensée. Ce que j'observe, c'est que, bien sûr, c'est jamais évident de limiter son propre pouvoir. C'est de ça dont on parle. La crainte de certains, c'est que ce pouvoir, qu'il s'exerce au travers d'une religion ou d'une autre, s'exerce à nouveau. Je crois que, justement, la laïcité, Jean-Baptiste l'a extrêmement bien développé, c'est justement pour empêcher toute prise de pouvoir. L'idée que l'Église aujourd'hui voudrait reprendre du pouvoir me semble peu crédible, honnêtement.
Oui.
et je crois que le danger n'est pas là, quoi, en fait.
Alors,
de mon point de vue, mais...
Je voudrais revenir sur ce qu'on appelle les laïcars, parce que c'est d'eux que vous parliez, Jean-Baptiste de Scorail. Bon, ce terme laïcar, on peut le voir comme péjoratif, donc il désigne des sortes d'extrémistes de la laïcité qui seraient en fait des gens qui détestent les religions et qui sont souvent des bouffeurs de curés, pour le dire vulgairement. Moi, ce que je comprends, c'est que selon vous, Jean-Baptiste de Scorail, ben oui, ça existe. Est-ce que voir la laïcité et donc la pousser à l'extrême, le principe à l'extrême, en faisant une espèce de solution à tous les problèmes, ce n'est pas quelque chose qui relève un peu de la fantasmagorie, Nicolas Ardenny?
Moi, je dirais que c'est de la pensée magique, hein, parce que ni la foi, ni son extrême opposé ne sont une solution. Il n'y a pas de solution, en réalité. c'est l'idée.
Il y a de moins mauvaises solutions que d'autres,
voilà,
sans doute.
Il n'y a pas de solution absolue, et le croire, à un moment donné, finit toujours par établir un système tyrannique d'un côté ou de l'autre côté. Donc, ce dont il faut se garder, justement, c'est de la question tyrannique. c'est-à-dire d'un absolu sur cette terre qui ne peut pas exister. Jean-Baptiste disait, il n'existe pas de société idéale. Il faut apprendre à vivre ensemble avec ce que nous a transmis l'histoire et ce que l'on peut adapter au temps présent. Et la laïcité est précieuse. Et en même temps, l'absence, l'effacement total de ce qui constitue historiquement un lieu comme la France, une géographie, enfin notre paysage, il a été façonné par ça. Et le nier ou chercher à l'effacer, il n'y a rien de plus terrible, hein, on le voit dans toutes les formes totalitaires qui ont cherché à effacer ce qui est venu avant. Je pense à Mao, à la révolution culturelle de 66, je veux dire, où on a cherché à effacer tout ce qui avait constitué la Chine. Alors je prends délibérément un exemple civilisationnel qui nous est très, très éloigné,
oui.
Parce que c'est plus facile, c'est comme les lettres persanes de Montesquieu, c'est toujours plus simple de se positionner ailleurs, ça permet de se décentrer, mais cet effacement absolu, total, est vraiment, vraiment tyrannique, absolutiste et totalitaire, et ça me choque énormément.
Baptiste Scorail, la laïcité, c'est un moyen, mais ce n'est pas la solution à tous les problèmes.
Non, ce n'est pas la solution à tous les problèmes, ça c'est clair. Il faut faire respecter cette loi, c'est important, mais il ne faut pas oublier nos racines aussi. C'est-à-dire que effectivement, vous avez le laïcard de base qui vous dit « Oui, mais on interdit dans une école le port du voile, mais dans une école privée, la religieuse a le droit de garder son voile. » Bon, c'est pas du tout la
ça
même chose.
Ça n'a rien à voir.
Mais oui, mais c'est souvent ce que disent, je dirais, les laïcards purs et durs. Donc, c'est quand même des choses différentes, et je rejoins là-dessus. Il ne faut pas qu'on oublie nos origines. Et le problème des laïcards, c'est qu'ils pensent que l'histoire de France a commencé après la Révolution. Et Georges Frêche le disait, qui était quand même un historien de gauche, qui a toujours dit « Mais arrêtons de dire que la Révolution a été le début de l'histoire de France. » L'histoire de France, elle a été façonnée par beaucoup de choses, dont la religion chrétienne, catholique, qui a travaillé depuis des siècles et des siècles. Et l'idée de dire que la France est la fille aînée de l'Église, c'est bien un signe. Le temps des cathédrales, etc. Mais ce n'est pas les mettre en opposition. D'ailleurs, on a bien vu, quand la cathédrale de Paris a brûlé, la force que ça a suscité sur toute la France.
Et au-delà, dans le monde entier.
Mais cette laïcité est importante aussi à garder parce que ça permet à chacun de pouvoir avancer dans sa liberté. C'est ce que je disais
tout
à l'heure.
C'est pour ça que je dis bien que c'est un moyen, et un moyen important qu'il faut préserver, bien sûr. Pour terminer, je vais m'adresser de nouveau à la femme et à l'homme de foi. Vous êtes l'un et l'autre. Notre pays et le monde en général traversent des moments très difficiles depuis quelques années. Il y a vraie raison d'être pessimiste pour l'avenir. Est-ce que malgré tout, vous gardez toujours l'espérance en tant que croyant et la foi dans notre capacité collective à sortir du marasme actuel ?
Bien sûr, toujours. Parce que il y a toujours de la lumière à la fin du tunnel, parce que l'espérance, c'est quelque chose que l'on doit avoir chevillé au corps.
Et à l'âme.
Et à l'âme, absolument.
Alors moi, pour terminer, je crois que l'espérance, c'est fondamental. Et on attend le retour, effectivement, du Christ. Moi, là, je parle en tant que chrétien. Ouais. Donc, je ne peux pas me dire que... Et c'est triste pour les gens qui ne croient pas, mais bah, si un jour tout doit tomber, ça sera la fin du monde. Et le Christ, pour nous, reviendra sur terre, etc. Comme on prie tous les jours, entre guillemets, moi, je marche à l'espérance. Et je me dis, ce monde-là, là-haut, que ce soit le Saint-Esprit, que ce soit le Dieu ou la Vierge Marie, sont là pour nous guider. Mais ça, c'est mon sentiment personnel sur lequel je crois. Et donc, grâce à ça, je me dis que ils seront toujours là pour nous sauver. Et il y a beaucoup de signes chez les catholiques et beaucoup de messages qui ont été passés en particulier par la Vierge. Alors, on y croit ou on n'y croit pas, mais beaucoup de messages qui nous ont dit que la France se relèvera de tout ça, le monde. Et moi, j'ai de l'espérance. Donc, je sais que là-haut, il y a quelque chose qui, un jour, nous fera rebondir dans le bon sens.
Nicolas Ardéni, pour terminer.
Alors, oui, bien sûr, parce que Jean-Baptiste dit, on attend le retour. Nous, effectivement, nous espérons des temps messianiques. Et ce que disait un très grand philosophe juif, ce qui compte surtout, c'est la manière dont on se conduit pour que cela advienne.
Dans le Notre Père, il y a « que votre règne vienne ». C'est important, cette phrase. « Que votre règne vienne », ça veut dire qu'effectivement, on aura toujours cette espérance. Et c'est ça notre force chez les gens qui croient en ce Dieu monothéiste, c'est cette espérance. Et ça serait triste, et moi je suis attristé de voir le peu d'espérance justement par rapport à ces laïcards qui ne croient en rien. Je l'entends, mais c'est très dur.
On va terminer là-dessus puisque nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci beaucoup à vous deux d'en avoir été les invités et d'avoir partagé avec nous ce qui fonde votre foi, vos convictions, vos engagements respectifs et donc votre espérance. J'aime beaucoup ce mot. Je vais vous souhaiter une bonne rentrée en tant qu'élu. Je sais que c'est un des moments de l'année les plus intenses pour vous. Ce numéro était animé par Éric Dupré, à la technique Francky Guéret. Merci à tous de votre écoute tout au long de ce numéro. À la semaine prochaine.